Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Bonjour, heureux de vous revoir. Nous allons ouvrir un texte, un passage dans notre Bible. Ça sera un message d'exhortation. Alors, ça sert à quoi l'exhortation ? Être stimulé, encouragé, et puis également éveiller notre vigilance. Parce que nous ne sommes pas dans un monde de tout repos, si vous permettez l'expression. Et je pense que aujourd'hui, comme à travers tous les âges qui nous ont précédés, eh bien, l'Église a besoin d'être exhortée. Dans le contexte du monde dans lequel nous évoluons, nous vivons, dont nous sommes aussi témoins, eh bien, de veiller, d'avoir le discernement nécessaire. Et ça, c'est important, faut pas l'oublier. Alors, je vous propose que nous ouvrions l'épître, la lettre de Paul aux Colossiens. C'est une petite lettre de l'apôtre, écrite probablement lorsqu'il était en captivité, me semble-t-il à Rome, et ayant eu des nouvelles, je crois, d'Épaphras, un de ses compagnons qui était venu le rejoindre, et lui donnant des nouvelles de cette église de Colosse. Eh bien, nous allons en substance lire une petite fraction de cette missive. Colossiens chapitre 2 et verset 1er. D'abord, ça commence par des félicitations, c'est bien. Un encouragement. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Maintenant viennent les avertissements. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abonder en actions de grâce. Voilà, nous allons nous arrêter là. J'aimerais placer devant vous le contexte, les motifs de l'avertissement de Paul à ces chrétiens de Colosse, et la raison était la suivante, c'est qu'ils s'étaient laissés peu à peu, ça vient jamais brutalement, circonvenir, ou si vous aimez mieux, séduire, pour ou par des éléments d'une hérésie sournoise et dangereuse. Eh oui, vous savez, je crois que les grands dangers qui menacent chacun d'entre nous, l'Église en général, le chrétien, c'est que les choses ne viennent pas forcément brutalement, vous tombent pas un matin sur la tête et puis que là, vous rentriez dans une autre dimension, mais ça vient d'une manière très subtile. Et l'enseignement de la parole est fait pour que, pour autant que nous en prenions conscience, que nous nous entretenions nous-mêmes personnellement, il n'y a pas que l'Église, mais que nous puissions véritablement, eh bien, tenir compte de ce que Paul dit à ses amis de Colosse. Ce danger du premier siècle, c'était, alors un mot qui est peut-être un peu difficile, mais je vais vous donner la signification, c'est le gnosticisme. C'était les philosophies, finalement, païennes de l'époque, qui veut dire connaissance, la science, l'intellectualisme. Bon, il n'y avait pas que ça, naturellement, mais c'était des philosophies mystiques, c'est-à-dire que c'était pas purement humain, uniquement humain, charnel, mais il y avait finalement l'aspect mystique, tellement séduisant pour ceux qui sont en recherche de quelque chose de plus, de quelque chose qui finalement est bien une résonance de Dieu. Et ce mysticisme revêtait naturellement et bien des règles, toutes sortes de choses, donc une philosophie. Et cette philosophie qui pénétrait subtilement à Colosse était truffée de légalisme juif, c'est-à-dire du judaïsme. Parce que naturellement, quand l'évangile est annoncé, on annonçait la foi en Dieu, Jésus-Christ principalement, mais naturellement, il y avait là tout un arrière-plan, comme celui de l'Ancien Testament, hein, ce légalisme de l'Ancienne Alliance, et toutes sortes de religions païennes. C'était un syncrétisme, c'est-à-dire c'était un mélange. Ça arrangeait tout le monde. Hein, les choses sont claires par rapport au message de l'Évangile. Mais quand il y a un petit peu d'emprunt ici, un petit peu là, tout le monde y trouve son compte, vous comprenez? Et c'est ça ce qui falsifie la parole de Dieu. C'est ça ce qui confond. Alors il y a des choses que l'on rejette parce qu'on se dit non, c'est pas possible. Puis il y a des choses qui nous plaisent, qui vont aller dans le sens finalement de nos idées, de nos pensées, en disant ben voilà. Et on le prend souvent, on le considère comme une amélioration, comme un avancement, une avancée si vous aimez mieux, une progression de la foi. Alors le danger, c'était principalement, et c'est ce que Paul voit d'ailleurs, c'était l'altération tout simplement du christianisme naissant, et c'est terrible, parce que le christianisme avait peu d'années, et il commençait déjà à être corrompu. Et c'est pourquoi vous trouvez très très souvent des admonestations de l'apôtre Paul, même Jacques, même Pierre, qui disent « Attendez, il y a des faux prophètes, il y a des fausses doctrines, il y a des chants qui viennent à vous, mais c'est pas pour la gloire de Dieu qu'ils le font, c'est pour se donner une aura, se donner une autorité, se donner peut-être les moyens d'en tirer quelques subsides pour s'enrichir. » Il y a tout, hein. Il y a de tout. Alors, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Quand on voit le monde qui porte peut-être indûment le titre de christianisme, se revêtant finalement de ses apparences de chrétienté, on s'aperçoit qu'il y a là toutes sortes de choses. Je ne veux pas critiquer tout ce qu'il y a autour de nous, je ne veux pas faire de l'anticatholicisme ou d'autres choses primaires, mais je pense qu'il y a là toute une imprégnation de subtilité et qui fait, nous pour nous, il y a des choses qui sont claires. Hein. Mais faisons attention, parce que si beaucoup de gens ont été séduits, nous pouvons nous-mêmes être séduits, hein. Faut faire attention, hein. Parce que les dérapages peuvent être fréquents. J'ai pris cette idée, elle m'est venue, cette idée de faire une relation, et on va le commenter, une relation avec certaines pathologies très dangereuses dans notre monde aujourd'hui. Vous m'excuserez, hein, je n'ai pas de connaissances médicales particulières, mais c'est peut-être cet exemple, la subtilité, c'est peut-être ce travail de discrétion, ce travail qui finalement d'infiltration. Et c'est vrai que il y a un mal qui sévit, c'est un virus qui sévit depuis une quarantaine d'années dans notre monde, c'est le sida. On a tous entendu parler, on en entend parler, il y a des campagnes, il y a des millions et des millions de gens qui sont morts dans nos pays, mais aussi et peut-être encore davantage dans les pays sous-développés. Et sida, VIH, et je voudrais, parce que c'est une, tout simplement, ce sont des lettres, mais c'est le syndrome d'immunodéficience acquise, sida. Et nous apercevons que ça existe dans le monde, sur le plan physiologique, mais ça existe aussi dans l'Église. J'ose le dire. Parce que quand on fait le rapprochement, on va voir que Paul l'avait bien vu, il ne connaissait pas, hein, ces maladies, il y avait certainement d'autres, probablement. Mais il y a une menace, et c'est le mot qui est intéressant, la menace. Et nous ne pourrons pas nous offrir le luxe de dire « ça existe ailleurs », ça, ce sont des choses qui ne nous sont pas, finalement, qui ne nous sont pas communes. Non, la menace. Je voudrais d'abord dire, dès le départ, c'est que toute église, si elle est vivante, parce qu'il y a des églises mortes, bon, là, il n'y a pas grand-chose à faire, mais toute église vivante a ses problèmes. Et on pourrait peut-être ajouter, parce qu'elle est vivante, elle est attaquée. C'est un organisme vivant. Elle est menacée. Mais derrière cette menace, il y a un ennemi. Il y a l'adversaire. Et on est prévenu. La Bible en parle. On va faire encore un cours de démonologie ce matin, mais ça existe. Hein? Même si on n'y croit pas. Enfin, pour nous, on y croit, hein, quand même. Il y a des réalités, naturellement. Et il faut donc se défendre. Mais comment se défendre? Toute la question est là. Il faut se défendre de ses agresseurs et développer ce que nous supposons des défenses immunitaires. Pas du même genre que par la maladie, que pour la maladie que j'ai citée tout à l'heure, mais il y a des défenses. Il y a des moyens de contrer. Maintenant, pour pouvoir approcher le problème, il faut être conscient que ça existe, ce sont des réalités, et il faut en avoir le discernement. Et la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est annoncée, la parole de Dieu vue et étudiée à la lumière du Saint-Esprit, eh bien, peut nous donner les raisons nécessaires pour pouvoir rester en bonne santé. Alors, je le prends d'une manière générale, l'Église en général, naturellement, mais ça peut être aussi sur le plan personnel. Une Église vivante, et c'est inévitable, eh bien, va être soumise à toutes sortes de choses. Toutes sortes de pressions, toutes sortes d'attaques de l'intérieur comme de l'extérieur. Elle va connaître, finalement, eh bien là, des conflits, elle va connaître des batailles, elle peut connaître des guerres. Et une chose qui est positive dans notre conception, c'est que quand on a mené une bataille et une guerre et qu'on l'a gagnée, on est encore plus fort après. C'est pour ça que quelquefois, cet autoprotectionnisme que l'on se donne, de dire « moi, pas ceci, pas cela, etc., etc., en dehors de mon église, il n'y a rien d'autre, etc. », bah, finalement, je veux pas dire qu'il faut s'exposer, mais quelquefois, Dieu nous pousse, il nous dit « va maintenant en avant ». Les persécutions du premier siècle, elles étaient permises pour que les chrétiens s'affermissent, et qu'ils aillent porter l'évangile, malgré les problèmes et les difficultés qu'ils avaient, et Dieu sait s'ils en avaient, dans les premiers temps. Écoutez, Paul, au service de l'Église, parle de ses souffrances. Il dit ceci. « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée, ville voisine, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli. » On verra ça ensuite. La première préoccupation de Paul en la matière, c'est qu'il sait que l'église auquel il s'adresse est une église en danger de tomber dans, si facile, dans ce que nous pourrons appeler le traditionaliste, à la recherche de quelque chose de. Une église, quand elle prend de l'âge, 30 ans, 40 ans, et puis il y en a naturellement des plus jeunes et aussi des plus âgés, finit par se conforter dans une forme de routine, mais de tradition, et on le voit dans les grandes dénominations du christianisme, où les choses, ben, elles ne dérogent pas, elles sont fixées, elles sont comme ça, et c'est ainsi. On les appelle des dogmes. On appelle ça un dogme. On est filé sur une doctrine qui n'est plus la doctrine biblique, la doctrine évangélique, mais qui est une doctrine avec le nom que cette appellation, que cette dénomination porte, hein. Qu'elle soit protestante, qu'elle soit catholique, qu'elle soit orthodoxe, et tout ce que vous voudrez. Et on l'enseigne d'ailleurs. Et on l'enseigne, je veux dire, à ceux qui en font partie de cette catégorie. Donc à la recherche de quelque chose de lassé du quotidien, où on se dit c'est toujours la même chose. et la tentation d'aller voir ailleurs et de regarder pour voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ça, c'est le phénomène de nos églises, surtout dans le monde aujourd'hui où il y a des moyens tellement abondants, d'une façon ou d'une autre, communautés variées, avec des cultures variées, avec des théologies diverses, avec des moyens informatiques, enfin toutes sortes de choses. Je ne critique pas l'existence de ces choses, puisque moi-même, je travaille dans ce sens, à développer le développement par-delà même les limites de notre Église. Mais c'est pas ça le danger. Le danger, c'est le non-affermissement des chrétiens pour qu'ils puissent choisir, et qu'ils puissent discerner, et qu'ils puissent faire le bon choix dans toute, comment pourrait-on dire, dans ce supermarché. Hein? On peut peut-être le présenter comme ça, c'est peut-être un petit peu... Mais bon, quoi qu'il en soit, voir ailleurs. Parce que il y a quand même dans le monde de l'industrie du commerce une concurrence farouche, hein. On le voit autour de nous, hein. Ça c'est une réalité. Mais la concurrence, elle est aussi dans le monde religieux, dans le fait religieux. Et on pourrait peut-être penser que, ben voilà, nous derrière nos murs, on est tranquille, etc., etc. Mais bon, voilà, on peut toujours le penser ainsi. Mais tout le monde est en droit de pouvoir dire, eh bien moi je vais voir un petit peu ici ou là, etc. Et c'est le problème du discernement de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Il est dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mal. Mais est-ce que nous avons la capacité de faire cette démarche? Un enfant, il faut lui apprendre, entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux, et toutes sortes de choses semblables. Eh bien c'est exactement la même chose, un chrétien mature doit pouvoir, comme le lit le livre des Hébreux, eh bien finalement, bien opter pour le bien, et puis voilà, le mal, savoir, eh bien, le mettre de côté. Donc, à la recherche de voir ailleurs, à la recherche peut-être de d'autres sensations, alors je voudrais mettre l'accent, et vous m'avez parfois entendu le dire, la foi, c'est pas ce qu'on ressent, c'est ce que l'on croit. Et si nous marchons avec... Cette impulsion de « j'ai senti donc Dieu » ou « j'ai senti donc le diable », alors je peux vous dire que vous allez trembler comme des feuilles. Hein. Eh oui, Jésus ne nous a pas enseigné, quand il nous parle de la foi, de ce que l'on voit, mais de ce que l'on croit. Et ça, je vous le répéterai, vous êtes peut-être lassé de l'entendre, hein. Mais la foi, c'est pas la sensation, c'est une erreur. La foi, c'est ce que l'on croit, en dehors de toute preuve, en dehors de tout ce que je peux ressentir. Maintenant, qu'il y ait quelquefois le sentiment, je ne suis pas contre, mais il faut que ce soit véritablement tout cela bien observé, et parce que Dieu pas aussi nous a parlé. Moi, le premier, il m'a parlé à travers quelquefois des choses qui sont passées par le ressenti. Mais un bébé, il ne marche qu'avec le ressenti, c'est pas vrai ? Ce qu'il mange, ce qu'il touche, ce qu'il voit, ce qu'il entend et tout ça, c'est le ressenti, c'est le primaire. Mais au bout d'un certain temps, Dieu nous dit maintenant, tu vas plus marcher de cette manière, tu vas marcher par la foi. Parce que tu crois, parce que tu connais ma parole et moi ce que je te dis. Et quelquefois Dieu nous dit, ben, tu vas marcher sans filet. Tu vas marcher sans ressentir. Et là on se dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? On marche dans le désert, hein. Seigneur, j'ai faim, j'ai soif, j'ai froid, ceci, cela, j'ai mal, etc., etc. Mais le Seigneur est toujours là, de toute façon. Mais il observe un petit peu comment on peut réagir dans ces circonstances, ces sensations. À la recherche d'autres expériences. Dans les milieux pentecôtistes, on a mis l'accent beaucoup sur l'expérience. Et c'est vrai, c'est une vérité. Mais pas que sur l'expérience. Parce que, il y en a un qui nous guette au passage avec des expériences. Et si nous cherchons uniquement l'expérience, à un moment ou un autre, nous allons rencontrer le loup au coin du bois. Vous connaissez le loup? Hein? C'est pas la brebis, hein? Mais quelquefois, il se déguise en brebis, hein? C'est subtil, cette histoire. Où nous cherchons l'inédit. Ah ouais, je m'ennuie dans mon église. C'est vrai, c'est toujours le même pasteur. Alors là, vous pouvez pas le dire. C'est toujours la même chose, on chante toujours les mêmes cantiques. Oui. On entend toujours les mêmes prier, etc., etc. Ça va? Eh oui, ça fait partie un petit peu de la nature humaine, mais bon, voilà. Et moi, je crois que Dieu est capable de toucher une église, de la valoriser, de la faire briller avec des choses nouvelles, parce que Dieu est un Dieu de nouveauté. Et pas de rester figé comme ça, c'est pas là. On va pas aller loin, hein. L'inédit dans le stupéfiant. Oula, attention à mes mots. Parce que le stupéfiant, enfin, je ne consomme pas. Vous seriez étonné, hein, quand même, de me voir un jour venir à l'église comme ça. Eh oui, mais le stupéfiant, ça booste, hein. Ça stimule ou ça endort. C'est l'un ou l'autre. Ou ça fait rêver. Eh ben, justement, c'est là où il faut faire attention. Faut être prudent par rapport à cela. Un danger guette. Et Paul l'avait discerné. Il dira, mais afin que personne ne vous trompe. Donc, il y avait des trompeurs. Il y avait des gens qui venaient dans l'église de Colosse, de Laodicée, voilà, de toute cette région, en disant « Ah ouais, vous avez entendu vos pasteurs qui vous ont prêché l'évangile, mais c'est pas tout à fait ça. Pour être encore plus près de Dieu, pour plaire à Dieu, il y a encore ceci à rajouter, etc. etc. » Donc, il le dira, mais afin que personne ne vous trompe par de faux raisonnements. Et nous voyons que dans ce sens, c'est qu'il y avait des faux docteurs qui passaient, qui allaient là d'un endroit à l'autre, et qui était à l'affût, figurez-vous, pas n'importe qui, mais à l'affût de chrétiens tout simplement insatisfaits et instables. Et c'est là justement où est le problème. Le chrétien qui est affermi, le chrétien qui est enraciné, vous pouvez bien lui raconter n'importe théologie, vous pouvez bien lui dire, voilà, moi je suis prophète, et puis je t'apporte ceci et cela, mais il ne bougera pas, parce qu'il est fondé non pas sur des hommes, mais il est fondé sur Jésus-Christ. Et là, ça bouge pas. Les pieds dans le rocher. Enraciné. C'est surtout cela. Hein. Alors c'est vrai que quand je ne juge personne et je connais pas, hein, mais c'est vrai que nous on l'a vu après 40 ans de ministère, on l'a vu que, surtout quand il est dans une ville, c'est pas le cas ici, mais quand dans une ville il y a plusieurs églises, on les voit pas, ils partent comme ça. Ce sont des papillons. Ils butinent comme les abeilles. Ils vont d'un endroit à un autre et quelquefois ils nous reviennent en disant « Mais je sais plus où j'en suis rendu. » Eh ben voilà. Et voilà. Alors après, bon, bien, il faut reprendre les choses, et fort heureusement, on en a vu qui ont tiré parti de leurs bonnes expériences, enfin de leurs mauvaises expériences, pour devenir, après, se stabiliser. Alors naturellement, donc, il y a des faux docteurs, et au menu, qu'est-ce qu'ils ont au menu, les faux docteurs? Qu'est-ce qu'ils vous proposent? Quelle cuisine? On parle beaucoup de cuisine en ce moment, hein, il y a des recettes. Hein. Alors, on va vous proposer tout simplement... Eh bien là, des recettes d'approfondissement supposées spirituelles. En disant, vous savez, votre pasteur, c'est vraiment du lait, hein, c'est de la bouillie, hein, ce qu'il raconte et tout ça, c'est du béaba. Mais moi, je peux vous dire que j'ai vu le ciel ouvert. Moi, j'ai ceci, j'ai cela, Dieu m'a parlé, etc., etc. Alors il y a toujours des gens qui, les oreilles grandes ouvertes et puis les yeux en disant, oh, c'est formidable, c'est ça ce qu'il me faut. Naturellement. Supposé spirituel. On vous offre d'acquérir une connaissance et percer les mystères. Ah oui, il y a bien cette question-là depuis au moins 20 ans, je me pose. Mais voilà, cet homme, ou cette femme, je ne sais pas, hein, m'a dit que, eh ben voilà, moi, pour moi, c'est un éclaircissement, c'est une révélation qu'il m'a donnée. Donc, l'acquisition d'une connaissance, c'est ça le gnosticisme. C'est percer les mystères. C'est un savoir-faire pour résoudre tous les problèmes. On viendra vous voir en disant, vous êtes malade depuis 20 ans, 30 ans et tout ça, mais moi, j'ai reçu un don de ceci et cela. D'ailleurs, quand on le dit, il y a quelque chose qui va pas non plus. Hein. Mais bon, toujours est-il qu'on est en train de vous donner des solutions et on vire vers, quelque part, hein, à la méthode de Simon le magicien. Hein. Vous connaissez Simon le magicien? Vous avez entendu parler de lui. Hein. Il avait là beaucoup d'adeptes et il pensait que, finalement, les gens pensaient qu'il disposait de la puissance de Dieu, la grande, qu'on appelle la grande. Nous, on l'a vécu, ça, cette confrontation avec des gens qui se disent prophètes, avec des ministères de guérison, et voilà, qui font tomber les gens, qui font rouler les gens par terre, qui les font marcher au plafond. Enfin, vous pouvez toujours vous retenir, il y a des... Mais... Non, mais on l'a vu, hein. Et pourtant, des frères et des sœurs qui étaient quand même, pour nous, soi-disant affermis, ont tombé dans le panneau. C'est terrible. Hein. C'est terrible, mais c'est comme ça, c'est tout. Hein. En somme, ces propositions, c'est de nourrir et de satisfaire une certaine curiosité. Soyons curieux de connaître Jésus. Soyons curieux, parce qu'il nous est dit, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Mais est-ce qu'on a besoin de plus que Jésus-Christ? Il a tout accompli. Il est en tout, partout, surtout. Ça ne vous suffit pas? Ça doit nous suffire, Jésus-Christ. Et de ne pas en rajouter, c'est pas la peine, hein. Une église en faiblesse par défaut de défense immunitaire. Et je l'avoue, quelquefois c'est un petit peu la responsabilité des pasteurs. Parce que on peut faire beaucoup de choses quand on est pasteur. Beaucoup de choses annexes. Mais moi je pense qu'on a été appelé à enseigner la parole de Dieu. Que l'on soit évangéliste, bravo. Que l'on soit pasteur, enseignant, que l'on soit docteur, docte, pour enseigner la doctrine. Mais ça c'est notre mission, et de pas courir de droite et de gauche. Moi je me suis toujours refusé, pourtant quelquefois on a eu des propositions de dire non, moi je suis un petit pasteur de campagne, je reste tranquille, voilà, je fais mon travail, parce que je crois que quand on est berger, on s'occupe du troupeau. C'est vrai, j'ai pas brillé, je brille toujours pas, mais vous allez voir quand on sera dans le ciel, il nous est dit qu'on brillera parce qu'on aura enseigné la parole de Dieu comme des étoiles. Daniel, chapitre je ne sais plus lequel. Mais toujours est-il que c'est écrit, hein? Eh oui. Alors, certaines curiosités. Et d'inviter les gens, les chrétiens, quelquefois mal asservis, à se désaltérer à une eau qui est douteuse, dont la source n'est plus l'intégralité de l'enseignement de Jésus, l'enseignement évangélique, quand on remet, etc. Tout texte sorti de son contexte est un prétexte. Pourtant, c'est clair. Hein. Deuxième préoccupation, ça va? Vous avez un peu de temps aujourd'hui, ça, hein? Vous êtes à l'abri, il pleut, alors donc c'est bien. Deuxième préoccupation, une église en faiblesse par défaut de défense immunitaire, nous l'avons dit, on le sait, et on le sait, je voudrais le souligner, c'est que les maladies microbiennes sont favorisées par deux facteurs. La présence de bactéries virulentes et l'état de santé de l'individu. Il y a la menace, et il y a le vecteur, naturellement, et puis il y a la personne qui va être infectée. Si elle est en bonne santé, elle va pouvoir se défendre. Mais si elle est déjà dans un état de faiblesse, la porte est ouverte, naturellement. Tout traitement qui est recommandé par le corps médical vise à combattre, à neutraliser, à nécroser la bactérie ou le virus, donc à combattre le microbe et en même temps fortifier le malade. Ça fait les deux, vous comprenez? Et plus l'un recule, l'autre prend finalement eh bien, de l'ascendant. Et la santé revient à ce moment-là. C'est un phénomène tout à fait compréhensible. Et il y a les pathologies spirituelles. Et elle se développe toujours quand il y a déficience de la foi. On n'a plus goût. Oh, aller le dimanche matin au culte, venir à la réunion de prière, bon, il n'y a plus grand monde. Venir à la réunion d'évangélisation, c'est plus pour moi, c'est pour les autres. Ah oui, mais quand il va y avoir de moins en moins, le pasteur, il va prêcher, prêchera devant les sièges vides. Vous comprenez? L'affaiblissement, la défaillance de la foi petit à petit qui est grignotée et qui s'atrophie naturellement, manque de vigilance, le problème de nos négligences, l'absence d'amour entre les chrétiens. Ah oui, parce que l'amour c'est le fondement. Hein. Je peux vous dire que quand il y a un amour brûlant tel que il nous est décrit là, l'amour de Christ dans Éphésiens, je peux vous dire que ça brûle entre nous, hein. C'est formidable. Hein. Et moi je bénis l'Église. C'est vrai, pendant tout le temps que j'étais avec vous, il y a eu vraiment des choses formidables. C'est vrai! Vous n'avez pas l'air de me croire! Vous nous l'avez prouvé aussi, hein. C'est vrai, c'est formidable et aimons-nous les uns les autres. Ah oui, ça c'est important, l'amour, c'est la clé. Eh oui. c'est essentiel. Et c'est tout ça, quand il y a absence, qui accroît la vulnérabilité aux attaques sournoises de l'ennemi. Et les signes, eh bien, ils nous sont donnés à travers, finalement, eh bien, ce que Timothée, enfin, reçoit de la part de Paul, les signes d'une infection, les signes d'une maladie qui approche. Écoutez, vous allez sourire. Car il viendra un temps, peut-être le nôtre, où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, bien souligné, hein. Mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est ce que j'ai dit, hein, jusqu'ici, hein. Des choses agréables. Ils se tourneront vers une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Alors ça, c'est grave, hein. Et se tourneront vers des fables, vers des histoires, vers toutes sortes de choses. Moi, il y a une petite bête que j'aime beaucoup. C'est les moustiques. Oh, le tigre. Vous savez, le moustique tigre. Oui, c'est bien dit dans ce sens-là. Ah ouais, c'est formidable, on passe des nuits. Mais alors, magnifique. L'urticaire, vous connaissez? C'est bien quand vous avez mangé peut-être quelque chose qui vous a pas réussi. Voilà, ben, ça gratte partout et puis c'est terrible. Eh bien, c'est ça, peut-être, justement, ce que l'on trouve chez certains qui ont des démangeaisons. Ça se guérit, hein? Maintenant, faut en prendre conscience. Il y a un autre élément d'influence qui, quelquefois, peut aussi favoriser l'entrée de ces perturbations, dans notre vie spirituelle. C'est un état de tristesse. Il y a des chrétiens qui sont toujours gais et il y en a d'autres qui sont souvent tristes. Je limite, hein, souvent tristes. On a quelquefois des raisons d'être triste et d'avoir de la peine et du chagrin. Mais Jésus, ou c'est Paul qui le dit, soyez toujours triste. Vous dormez pas, hein. Soyez joyeux. Non, mais je vous réveille de temps en temps parce que, il faut quand même stimuler les réactions immunitaires. Vous comprenez? C'est comme les vaccins. Vous êtes fait piquer pour la grippe, là? Ouais. Allez-y, hein, parce qu'il paraît que ça va être terrible cette année. Bon. État de tristesse et anxiété existentielle. Ils portent toujours, il y a des chrétiens qui portent toujours leur fardeau en disant « Mais qu'est-ce que c'est difficile d'être chrétien ?» Waouh, c'est terrible. La peur maladive, les inquiétudes récurrentes qui poussent à la recherche d'un remède miracle. Ah voilà, Seigneur, je te prie depuis près de 45 ans pour mon problème. Et j'ai jamais vu la réponse. Remède miracle. Sans en vérifier la composition. Si vous prenez un médicament. Lisez donc, là, ils mettent toujours un petit papier où il y a peu de choses écrites dessus. Mais lisez-le en entier pour vous endormir le soir. Vous allez voir, c'est formidable. Vous avez la posologie, vous avez la composition, etc., etc. Et puis après, vous avez ce qui est très intéressant. Si vous êtes ceci, si vous êtes cela, etc., etc., vous risquez d'avoir ceci et cela. Je peux vous dire que vous sautez de joie. Eh oui, mais au moins, lisez la composition. Et la composition, elle est décrite finalement dans toute cette posologie qui nous est donnée à travers la parole de Dieu. Hein. La cause première du mal, c'est que l'Église malade, ainsi, a perdu la conscience d'une chose extraordinaire, c'est la présence de son Dieu au milieu d'elle. Mes frères et sœurs, je vais vous le répéter encore, le Seigneur n'est pas avec nous. Ça va? Il est en nous. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. La nouvelle naissance a invité le roi des rois à venir en son temple. Oh, le temple. Quelquefois, il se dégrade, hein, mais bon. Mais dans notre cœur, en tous les cas, quoi qu'il en soit. C'est parce que nous ne sommes plus conscients que le Seigneur est présent. Mais il est formidable présent. Formidablement présent, pardon. Il est non seulement avec nous, je vous enverrai le Saint-Esprit, il ne sera pas seulement avec vous, mais il sera en vous. Merci Seigneur. Et ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, comme on l'entend dans le monde pentecôtiste, demandez, le Seigneur va vous le donner. Mais à votre nouvelle naissance, vous êtes déjà rempli du Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas naître de nouveau s'il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est un petit peu d'enseignement pratique là. Je reviens à des choses très prosaïques. Le verset 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation et qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Toute présence de Dieu dont nous sommes conscients. Je dis bien, Seigneur, tu es là. Seigneur, je ne suis pas là à te chercher, comme je vous l'ai dit l'autre jour. Je cherche au Jésus ta présence. Non. Je vis Jésus ta présence. Vous savez, cantique, que j'ai modifié parce que quelquefois je trafique aussi. Hein. Nous remplis de consolation et non d'abattement. Vous êtes heureux ce matin parce que le Seigneur est en vous. Oui, mais bien sûr. Je ne voudrais voir personne sortir en pleurant. Quelquefois ça arrive. Non, soyez heureux d'avoir le Seigneur avec vous et en vous, naturellement. Triste constat lorsque les chrétiens éprouvent la solitude spirituelle. Je me sens seul, je suis toujours seul. Mais non, tu n'es pas seul, mon frère, ma sœur. Tu as des problèmes et on est là pour prier, on est là pour t'aider, pour te dire mais non, tu n'es pas seul. Le Seigneur est là. La solitude spirituelle. Parce qu'ils n'ont jamais développé peut-être leur foi dans cette parole et cette promesse. Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Vous savez que le Seigneur est au culte avec nous ce matin? Vous l'avez vu? Eh ben non. Et pourtant, il est là. Voilà. Mais c'est formidable, hein. Je pose des questions toutes simples et vous répondez comme ça spontanément. C'est extraordinaire. Je suis tous les jours parce que la paix de Dieu est avec nous. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et c'est ça le problème, la pensée, ouh là là, la folle du logis. Et nos cœurs, le sentiment, l'intelligence et le sentiment, le cœur, il gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. La conséquence de ces états d'âme négatifs attirent de faux consolateurs, et si ce sont des faux consolateurs, ils vont vous donner des fausses consolations. C'est logique, ils ne peuvent pas donner rien d'autre. Et ça constitue un piège auquel, eh bien, nous tombons. Vous savez, vous connaissez Jonas, celui qui est enthousiasmé pour faire de l'évangélisation. Eh bien, le Seigneur lui a donné une bonne leçon. Parce qu'à force de grogner, à force de maugréer, à force de dire « je n'irai pas », Dieu lui a donné un beau ricin un jour. Regarde comme il est beau. Et ça poussait en l'espace de combien? 24 heures. Et puis lui dit, il pensait que c'était un parapluie contre la chaleur, un parasol. Puis à un moment donné, mais Dieu lui dit, arrête de râler. Excusez-moi l'expression, hein. Comprenez le mot râler? Voilà. Et Dieu lui a dit, enfin Dieu lui a pas dit, mais il s'en est aperçu, Dieu a permis qu'il y ait un ver qui détruise le ricin. Et en l'espace de peu de temps, je peux vous dire que la colère, elle est repartie encore de plus belle. Mais Dieu lui a dit, arrête. Moi, c'est moi qui suis Dieu, je suis souverain, et toi, arrête de te plaindre. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a dit, tu vas y aller, tu vas prêcher le message aux Ninivites, et 120 000 âmes se sont converties. Ça vaut la peine de se mettre en colère, hein? Mettez-vous en colère. Et ça, c'est le danger de la division, qui est une sorte de cancer pour l'unité des chrétiens. Tout ce que nous avons cité. Unis dans la charité, nous dit le texte, hein, c'est-à-dire l'amour de Jésus-Christ, et cet amour de Jésus-Christ doit nous amener à nous aimer les uns les autres, hein, parce que l'amour est le lien de la perfection, et c'est l'antidote efficace contre toutes les choses mauvaises. Et c'est entretenir aussi la reconnaissance comme remède, abonder en actions de grâce, dans le texte, hein, car l'esprit d'ingratitude, l'esprit de revendication relève de la sous-évaluation du prix de la grâce qui est un don de Dieu. J'ai pas mesuré que la grâce, c'est le nec plus ultra que Dieu n'ait jamais donné aux hommes sur cette terre. La grâce. Et quand, on l'a entendu, je crois, dans les louanges, et quand on est tout à fait conscient que véritablement le plus beau de tous les cadeaux, c'est la grâce de Dieu, alors à ce moment-là, mais tout est beau et tout est magnifique. Vous voyez les choses comme moi? Vous hésitez à me répondre, hein, mais bon. Oui. Abonder en actions de grâce. De plus en plus, mes frères et sœurs, quand vous venez dans les réunions, comme ce matin, mais allez-y, qu'il n'y ait plus d'espace, tout le monde doit se bousculer pour remercier le Seigneur. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui voudraient le faire, mais comme, ils se disent, mais moi je suis timide, je peux pas. Alors c'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné. Je vous laisse devenir la suite. Hein? La gratitude envers Dieu, et je vais terminer, est une puissante ressource pour se prémunir contre l'envahissement des diverses maladies spirituelles et nous assure une bonne santé en tant qu'enfant de Dieu. La clé, c'est parce que nous avons tout en Jésus-Christ. Pourquoi chercher ailleurs? L'église de Saint-Nazaire, de Redon, elles ne sont pas parfaites. C'est vrai. Vous vous trompez, si vous pensez ça. Mais nous avons tout, non pas ici-bas, mais nous avons tout là-haut. Nous avons tout en Jésus-Christ. Dans le terme qui nous est employé, en qui sont cachés? C'est en lui si nous avons besoin de chercher des réponses et des solutions. Mais il faut d'abord regarder à Christ et puis ensuite, il va nous les révéler. En qui sont cachés les trésors de la sagesse et de la science? Et nulle part ailleurs. N'allons pas batifoler de droite et de gauche. Nous les avons en Jésus. Le matérialisme dans lequel nous vivons aujourd'hui, le mysticisme, lorsqu'il est à côté avec, ou il s'associe avec, ou allié avec la religion, s'en trouve relégué en accessoire. C'est-à-dire que c'est accessoire. Bien sûr que nous avons besoin de ce matérialisme. Bien sûr que nous avons besoin d'une spiritualité. Mais tout ça, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, eh bien, c'est celui qui est le centre, c'est-à-dire c'est la personne de Jésus. Parce que ce sont pas des idéologies que nous recherchons. C'est une personne, et Jésus est une personne vivante. Il est ressuscité. Or Jésus, il n'y a rien de plus enrichissant et d'accompli que notre foi et notre vie en lui. Les chrétiens ultra-spirituels, vous savez que ça existe, hein ? Ouais. Ils sont souvent prêts à briser l'Église par des jugements arbitraires sur leurs frères et leurs sœurs, parce qu'ils sont au-dessus des autres. Ils sont des super-chrétiens, qu'est-ce que vous voulez ? Et souvent, ils manifestent, ils sont bourrés de préjugés au perfectionnisme outrancier. Il faut que ce soit du nec plus ultra. Rien n'est suffisamment beau. Mais bien sûr, on le sait ça. Mais le perfectionnisme, c'est une recherche de soi. Et quelquefois, ça fait beaucoup de mal. Quand vous entendez, c'est très encourageant, des prédications qui vous disent « mais faut faire ceci, faut faire cela, vous n'êtes pas encore ceci, vous n'êtes pas encore cela ». Mais c'est pour pasteur de le dire, c'est le Seigneur et le Saint-Esprit qui va nous l'enseigner. Et ça viendra tout seul. Je suis en train de me ramollir. Je n'ai jamais été comme ça, de toute façon. Faut encourager et pas décourager les gens. C'est pour ça que Paul dira « mais illumine les yeux de notre cœur ». Illumine les yeux du cœur des Éphésiens pour qu'ils voient. Seigneur, fais-le, s'il te plaît. L'exercice, parce qu'on nous dit quand on est malade, il faut faire de l'exercice après. Quand on a une opération, il faut y aller. Voilà. L'exercice est maintenir la bonne santé spirituelle. On est la marche et non un stationnement de contentement. De dire, eh bien voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, maintenant je reste tranquille parce qu'il risque de m'arriver encore quelque chose de pire. Je reste couché. Eh bien, vous savez, vous allez grossir. Vous allez prendre du poids. Et puis, vous n'allez pas voir autre chose que les murs et puis le plafond et le plancher de la maison. Non, il faut vivre. Et si Dieu nous donne de nouvelles forces, c'est pour y aller. Vous allez voir, tiens, d'ici quelque temps. Eh, c'est ça, hein. C'est pas le stationnement de contentement. Seigneur, je bouge plus parce que je suis un peu maintenant en porcelaine. Et ça casse, hein. Verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu du Seigneur Jésus, marchez en lui. Faut pas rester à dormir. C'est pas rester en disant oui, j'ai des malades et ceci et cela. Étant enraciné et fondé en lui, affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. Ça, marchez en lui, avec lui et derrière lui, pas devant lui. Parce que quelquefois ça peut arriver. Les yeux fixés sur lui, nous dit le livre des Hébreux. N'allant plus ni à droite ni à gauche en quête de nouveautés, mais nous sommes enracinés, nous sommes fondés sur la personne de Jésus et de sa parole. Et encore, je le répète, une parole qui est vue, qui est saisie au prisme de l'esprit, et non pas une parole d'égalisme, parce que ça sert à rien. Donc, aucun supplément, mes frères et sœurs, artificiel. Pas de vitamines pseudo-énergisantes. Vous comprenez ce que je veux dire, vous décodez. Vous lirez le mode d'emploi, je vous le donnerai tout à l'heure. Qui donne l'illusion de la forme, de la force et du punch. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne finalement cette vitalité. Et pas la peine d'avoir là, toutes sortes de comprimés, enfin, façon de parler. Voilà. Parce que Jésus-Christ, sa parole, son exemple, c'est bien la plénitude de la vie. Et ce que nous voulons, ce que nous voulons pour l'Église, c'est que l'Église rentre toujours de plus en plus dans la plénitude. Parce que quand nous serons arrivés dans le ciel, ça sera la plénitude de l'autre côté. Que le Seigneur nous bénisse. J'espère que je vous ai pas troublé, que je vous ai pas choqué, traumatisé, peut-être. On va prier quelques instants et je vous remercie pour votre écoute. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole. Paul avait raison parce qu'il avait bien analysé en son temps la fragilité, la vulnérabilité des communautés du premier siècle, communautés chrétiennes. Oh Seigneur, tu nous as tout donné pour ce qui concerne la piété, la foi, le développement, l'enthousiasme, l'évangélisation, Seigneur, avec cette force de l'Esprit. Oui, Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions de nous avoir tout donné. Et puis de savoir, parce que nous n'avons rien à ajouter, ces paroles qui sont tombées de la croix à Golgotha, tout est accompli. Alors, Seigneur, merci pour ta présence. Moi, je te prie particulièrement pour mes frères et mes sœurs qui ont entendu ta parole, qui entendent ta parole. Oui, Seigneur, fais leur grâce et donne-leur, Père éternel, de se réjouir en toi de ce qu'ils ont le plus grand trésor et qui fera écrire à David, mon Dieu éternel, tu es mon souverain bien. Seigneur, merci Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.